Je ne pas tout à fait donner un chèque, mais non.
S'il y a que ça.
Bien, ben écoutez, nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Combe qui va nous parler de la matière noire. Alors, comme d'habitude, même si nous allons revenir complètement, pour la personne de Florence qui va prendre la transcription, on va faire un très rapide tour de table, juste pour que quand vous interviendrez, elle sache à qui attribuer les paroles prononcées. Donc, une présentation très très rapide, juste pour que Florence Berthezen puisse mettre un nom sur les gens qui parleront. Comme il y a des nouveaux aussi, c'est bien d'en faire un tour de table. Donc, on va commencer par Jean-Paul.
Jean-Paul Dallet, je suis professeur à l'Université de Lille, informaticien et mathématicien.
Max Kistler, je suis professeur de philosophie des sciences à Paris.
Anna Longo,
je suis enseignante à Paris. Entre lui, physicien à Normative.
Michel Leblanc, physicien retraité, des chimie quantique.
Daniel Richfeld, un maître de conférence en épistémologie didactique de la physique à l'Université de Montpellier.
Michel Bibot, directeur de recherche au CNRS en philosophie aux archives où sert à l'ENS à Paris.
Michel
Jourdan-Besselmou,
ancien recteur, philosophe, enfin, ancien professeur de littérature et linguistique hispanique, puis de philosophie, et conseillère de Catherine Machignac.
Donc Catherine Machignac, physicienne.
Merci.
Ah bah vous êtes tout seul là-bas ?
Ah. Ouais, bah je me suis un observateur. Ah. Je suis Jean-Luc Chapon, responsable des publications à l'Académie des sciences. Un auditeur libre.
Ah oui, mais un auditeur libre très très très
critique.
Merci.
Bien, alors je vais vous parler donc des matières noires. Voici les grandes lignes. Je vais commencer par un peu d'histoire. Je parlais de la rotation des galaxies, tout ce qu'on sait sur la matière noire et sur les baryons qui sont la matière ordinaire, hein, les protons, les neutrons. Je vous montrerai qu'ils sont associés à la matière noire, qu'il y a de certaines relations d'échelle. J'essaierai de décrire les grands modèles, les meilleurs candidats, les modèles standards de matière noire, montrer quels sont les grands problèmes et peut-être essayer de dire tous les problèmes qu'on a avec les candidats et peut-être parler de gravité modifiée puisque finalement il y a... toujours cette dégénérescence matière noire et gravité modifiée. D'ailleurs, quand je reprends l'histoire, c'est un petit peu cela qu'on a eu avec Urbain Le Verrier, hein, qui avait détecté dans les planètes lointaines des perturbations, et qui donc avait inventé, avec les perturbations gravitationnelles, inventé l'existence d'une planète invisible, donc c'est un peu la matière noire, si on veut, et qui a prédit où est-ce qu'il devait se trouver. Et donc, comme vous savez, Johann Galle a observer cette planète à Berlin. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Le cas, par exemple, de Mercure, un peu après, 1860, il y a encore un problème de périhélie qui avance de 43 secondes. Donc, Urbain Le Verrier veut réitérer sa découverte. Il essaie de proposer une planète inconnue, invisible, matière noire, la Vulcain. Et puis, ça n'a pas marché. Donc, peut-être, il a essayé d'avoir une ceinture de planètes qu'on ne voyait pas. Lors des éclipses, on aurait pu le voir. Et donc, là, pour cette fois-là, il fallait changer la loi de gravité. Donc, vous voyez, matière noire ou changement de loi de gravité, c'était déjà le cas ici. Donc, en 1916, comme vous le savez, ça a été résolu, ce problème de 43 secondes, par un élargissement de la loi de Newton à la relativité générale. Donc, pour l'histoire de la découverte de cette matière noire, on l'a fermentée en 1937 par Fritz Zwicky, qui était un Suisse qui était en Californie, en Amérique, qui observait sur les télescopes californiens et qui avait un caractère de cochon. D'ailleurs, cette photo est représentative, tout à fait. Et il observait les amas, l'amas de coma. Donc, un nombre important de galaxies, hein, peut-être 1000 ou 3000 galaxies. Il les observait avec des raies optique, donc un effet Doppler, donc il avait la vitesse de toutes ces galaxies, et pour que la masse tienne entre eux, avec toutes ces vitesses, il fallait une énorme masse. Alors, il avait un rapport masse sur luminosité de toutes les galaxies, donc tout ce qu'on voyait est matière visible, devait être égal à 500 fois le rapport masse solaire sur luminosité solaire, ce qui est énorme. Pour une étoile, M sur L, l'ordre de 1 à 5, Donc au pire, on aurait eu ça, mais c'est-à-dire qu'on avait 100 fois plus de masse que prévu. Donc c'est pas une petite erreur, hein, on avait 100 fois plus de masse. On va voir qu'aujourd'hui ce nombre s'est restreint parce qu'on n'observe plus seulement dans le visible mais dans notre longueur d'onde, et on a vu d'autres masses dans d'autres longueurs d'onde. Donc là, pour résoudre ce problème, il avance plusieurs hypothèses. Donc soit il y a de la matière noire qu'on ne voit pas dans les galaxies, soit il y en a entre les galaxies dans l'interamas, ou alors la luminosité, on se trompe dessus, elle est très obscurcie par des poussières, donc peut-être qu'il y a beaucoup plus de luminosité, donc beaucoup plus de lumière et donc de masse visible, ou alors il faut changer la loi de Newton, hein, toujours la dégénérescence entre existe-t-il de la matière, ou alors il faut changer la loi. La même chose en 1932, mais au voisinage de notre Soleil dans la Voie lactée, Yann Hort avait vu que lorsque on a le Soleil est dans le plan de la Voie lactée, hein, dans le plan des galaxies, et on a des oscillations d'étoiles perpendiculaires au plan. Donc on peut en déduire la masse qui est dans le plan par la vitesse d'oscillation. Il avait trouvé une masse bien plus grande. Et il faut bien dire aussi que jusqu'en 1985, cette matière noire est supposée ordinaire. On n'a pas pensé du tout à une matière qui ne soit pas ordinaire, c'est-à-dire faite de protons et d'électrons et de baryons. Donc toute cette matière-là, c'était soit des étoiles manquées, comme Jupiter est une étoile manquée. Il y en avait peut-être beaucoup plus. Et c'est ça à quoi on pensait. Alors un facteur 100, c'est beaucoup, mais enfin, on pensait à uniquement des baryons. Ce n'est qu'en 85 qu'on a pensé à autre chose. Je vous explique pourquoi. Donc là, ils pensaient qu'il y avait des astres morts, etc. Donc si on regarde d'un point de vue historique, certains, un peu chauvins, disent que peut-être que c'est Poincaré qui avait le premier parlé de matière noire. Et en effet, quand on regarde, je suis allée voir l'article de 1906 qui est ici, où il regarde dans la Voie lactée l'équilibre des étoiles et il pense qu'il y a peut-être des étoiles obscures qui circulent. Alors il y a des étoiles qu'on voit, des étoiles qui sont noires. Et il parle de Dark Matter. Donc c'est le premier, enfin il dit qu'il n'y en a pas. Il dit qu'il n'y en a pas, mais que ça lui pose quand même des problèmes, parce que pourquoi on voit aujourd'hui toutes les étoiles brillantes, et où sont allées les étoiles une fois qu'elles sont mortes? Elles devraient constituer beaucoup de dark matter, donc il le remet peut-être en cause, et se pose des problèmes sur la possible matière noire qu'il y a dans la Voie lactée. Mais en fait, on fait toujours remonter à Zwicky, mais peut-être que Poincaré en avait parlé avant. Et puis, un petit peu plus tard, on a parlé de courbes de rotation de galaxies. Donc, les galaxies tournent sur elles-mêmes, hein, comme un disque. Alors, pourquoi ce n'est pas venu d'abord? On a d'abord parlé d'amas de galaxies. Bien, c'est plus difficile, parce qu'il faut avoir la courbe de rotation. Alors, ici, vous avez le rayon à partir du centre de la galaxie, et puis la vitesse de rotation. Donc, il faut avoir plusieurs points. Et il faut connaître la distribution de masse de façon parfaite. Ici, on voit bien que la distribution théorique est ici, la distribution observée, il y a des barres d'erreur assez grandes. Ce n'était pas très évident qu'il y ait beaucoup de matière noire. Alors, surtout en optique, on a un rapport N sur L qui est inconnu. On sait que ça peut varier entre 1 et 10, donc on a un facteur d'incertitude. Et puis, on peut remonter aussi à Vera Rubin, dans la photo ici, l'obtention de beaucoup de courbes de rotation, mais optique, en H-alpha avec les raies d'hydrogène, avec les raies de N2, et en optique, il n'y a pas énormément de matière noire dans les grandes galaxies comme la nôtre, par exemple, la Voie lactée. Pour trouver la matière noire, il faut aller au-delà du Soleil, c'est au bord de la galaxie, au centre, on n'a pas beaucoup besoin. On peut en mettre, mais il y a un bord d'erreur. Donc comme on s'arrête à peu près au Soleil ou un peu plus, il n'y avait pas d'évidence énorme. Il y avait beaucoup plus d'évidence dans les amas de galaxies, comme Zwicky l'a montré, que dans les... Donc voici un petit peu le problème. Donc les galaxies tournent trop vite. Ici on a la Voie lactée, une vue d'artiste, puisqu'elle est vue de face alors qu'on la voit par la tranche. Donc nous sommes ici, à peu près. Et on voit qu'en fonction donc la distance... là, j'ai une unité qui est kiloparsec, c'est-à-dire 1000 parsecs. Un parsec, c'est 3 années-lumière, pour donner. Donc le Soleil est à 8 ici, kiloparsec. Et puis, on a une courbe qui est mesurée par les points ici, par les étoiles. On peut la décomposer en un composant qui est le bulbe. Donc la contribution du bulbe à cette courbe de rotation. La contribution du disque, alors tout ça, disque et bulbe, c'est visible, c'est la galaxie visible. Donc les deux contributions visibles donneraient ceci. Et vous voyez qu'on observe ça, donc on est obligé de rajouter un composant qui est le halo noir. Alors on met un petit peu de halo noir, mais vous voyez qu'on en a besoin que par ici. C'est un halo, donc c'est quelque chose qui entoure la galaxie. Alors, pour les galaxies de l'ordre de la Voie lactée, donc massives comme ça, Andromède aussi, on a besoin de matière noire qu'à l'extérieur. Pour les galaxies naines, on va voir qu'on a besoin même dès l'intérieur. Alors, ce qui a vraiment convaincu tout le monde qu'il y avait vraiment besoin de matière noire au bord des galaxies, c'est l'hydrogène atomique, qui a été découvert en 1952. Hein, c'est la raie hyper fine à 21 cm de ce gaz atomique. C'est une raie interdite, mais ainsi on peut, comme il y a énormément d'atomes d'hydrogène dans une galaxie, normalement il faudrait attendre 1 million d'années pour avoir des excitations spontanées d'atomes d'hydrogène, mais il y en a énormément. Donc voici une courbe obtenue. Alors vous voyez, les galaxies optiques se terminent ici. Et ces courbes-là sont des courbes dues à l'hydrogène. Alors vous voyez que l'hydrogène, il est comme un réservoir de gaz autour des galaxies. La galaxie optique est ici dans le trou. C'est un zoom ici. Donc vous voyez Messier 83, qui est une galaxie ordinaire. En optique, vous voyez que ça. Et donc tout ce qui est orange, c'est la cartographie de 21 cm, du gaz atomique. Donc le gaz atomique va 4 fois plus loin que la galaxie optique. Et ça permet donc de tester. Le gaz atomique a très peu de masse, donc il ne contribue pas à la masse visible. En général, c'est 5 à 10% de la masse d'une galaxie. Donc ce sont des particules test qui vont vous dire quelle est la courbe de rotation et combien elle est plate, élément plate. Là, franchement, là, on arrive à... la galaxie optique se termine ici, donc il n'y a plus de masse optique, et on voit bien qu'il y a énormément de masse noire. Donc c'est environ, lorsqu'on a pu faire des cartographies de gaz atomique, on a vraiment convaincu tout le monde que les galaxies étaient pleines de matière noire. Alors ces galaxies, cette matière noire, elle se distribue de façon différente. Et ce qu'on a compris peu à peu, tout ça, ça a pris quelques années pour qu'on ait au moins des centaines ou des milliers de galaxies avec des courbes de rotation, c'est que les galaxies qui avaient le plus de matière noire, c'est celles qui étaient très faibles en brillance de surface, qui avaient assez peu d'étoiles. Alors ici, je vais représenter deux galaxies à la même échelle. Cette galaxie, c'est la même échelle, c'est la même masse. Donc deux galaxies de même masse, vous voyez qu'il y en a une qui est petite et compacte, et l'autre étalée et de faible brillance de surface. On appelle ça low surface brightness, LSB. Ça veut dire que c'est très dilué. Donc la même masse, ces deux galaxies ont même masse, l'autre est une high surface brightness, donc low surface. Et quelle est celle qui a le plus de matière noire? Et bien on va voir. Alors voici la courbe de rotation. Comment on va les normaliser toutes les deux? On a une petite galaxie, la compacte, qui a cette courbe de rotation. La grande, elle a cette courbe de rotation. Quand on regarde l'optique, en optique, on peut avoir ça ou ça. Et vous voyez que la grosse, celle qui a une très faible brillance de surface, elle a de la matière noire dès le début. Donc ce qu'on a découvert, c'est qu'il fallait avoir très peu de masse visible pour avoir beaucoup de matière noire. Dès qu'on a une grande surface, une densité de surface de matière visible, il n'y a pas de matière noire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va voir, qu'on va confirmer, et qui va peut-être nous... c'est un peu heuristique pour savoir si on doit changer la loi de gravitation. Ça va être en champ faible, lorsque l'accélération de la pesanteur est faible. Pourquoi? Parce que la densité de surface, c'est l'accélération. L'accélération, c'est m sur r2. Donc m sur r2, c'est la distribution de surface de la matière. Et c'est m sur r2 faible qui nous donne beaucoup de matière noire. Donc beaucoup de cours de rotation, des milliers ont été faites. Et on peut justement donner une courbe de rotation typique, universelle, si on normalise au rayon optique. Il ne faut pas normaliser à la taille du viriel de la galaxie, par exemple à la taille du halo. Il faut toujours normaliser à la galaxie optique, c'est-à-dire la galaxie visible. Donc c'est les baryons qui dominent. Si on connaît les baryons, on connaît la matière noire. C'est toujours associé. On ne peut pas avoir n'importe quelle matière noire pour un baryon donné. Ça veut bien dire qu'il y a une association des baryons de la matière noire. Donc ici, on a des galaxies qui sont très massives. Donc, vous voyez qu'ils tournent jusqu'à 300. La nôtre, la Voie lactée, tourne jusqu'à 200. Donc, les galaxies massives, elles ont une courbe qui descend. Et les galaxies naines, donc la courbe va plus jusqu'à 100, elles montent toujours. En fait, elles n'est plate qu'au milieu. On n'a pas vraiment de galaxies plates pour toute la gamme de masse. Et on voit bien que ce sont les petites galaxies qui ont la proportion de matière noire la plus grande. Pour celle-ci, on n'a pratiquement pas besoin de matière noire. Alors ici, je représentais l'optique s'arrête là. Et puis ici, vous avez le gaz H1 qui nous permet d'échantillonner cette courbe de rotation. Alors, il y a aussi, donc, dans la suite historique, donc, dans les années 80, on a bien compris ces cours de rotation avec le gaz H1. Et puis, on a vu que, par exemple, dans la mat coma, voici la mat coma en X, on a observé dans d'autres longueurs d'onde que le visible, etc., donc le rayon X, et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de gaz très chaud, 10 millions de degrés, dans la galaxie. Il y a plus de masse dans le gaz très chaud que dans toutes les galaxies réunies d'un an. Ça, c'est quelque chose que Fritz Wilkin ne pouvait pas savoir, puisqu'il n'observait pas dans les rayons X. Mais il avait, c'est pour ça qu'il avait un rapport 100 entre masse visible et masse invisible, c'est qu'il n'avait pas vu que la plupart de la masse visible est sous forme de gaz très chaud en rayons X. Alors d'où il vient ce gaz très chaud? On pense qu'il vient du fait que toutes les galaxies, en fait, elles ont un petit peu de masse qui a formé des étoiles dans la partie compacte. Elles ont un grand réservoir de gaz dans les parties externes. Lorsque vous formez un amas, toutes ces galaxies rentrent en interaction et le gaz se chauffe. Et ça, c'est le gaz résiduel de toutes les galaxies réunies. Donc on commence à voir beaucoup plus de baryons qu'on avait vu dans les galaxies. Donc ici, dans la mat coma, on a 10 fois plus de masse dans le gaz chaud que dans toutes les galaxies réunies. Donc déjà, on a éliminé un facteur 10 de la matière noire de Fritz Wilkin. C'est pour ça que je dis que ça se réduit comme peau de chagrin. Puis surtout, on voit bien que ce qu'on voit avec nos yeux, c'est très peu de la masse de l'univers. En fait, il ne faut pas se tromper en disant on voit tout. En fait, la plupart de la masse de l'univers est dans des longueurs d'onde que l'on ne voit pas. Déjà un baryon. Alors voici la fraction des baryons qui sont détectés. Dans le modèle standard, j'anticipe un peu, on a entre la matière noire exotique, on est obligé de dire non baryonique, et la matière baryonique, on a un facteur 5 à 6. Donc si vous le mettez en fraction ici, c'est un facteur 0,17. Donc les baryons sont 17% de la matière totale. Donc le gros problème, c'est que dans toutes les galaxies, on ne détecte pas les baryons. Les baryons sont en dehors des galaxies. Voici la fraction de baryons que l'on détecte en fonction de la masse de l'objet. Donc pour les petites naines qui sont pleines de matière noire, on détecte pratiquement pas tous les baryons qu'on pourrait détecter. Hein. Imaginez qu'on a un univers, on sait qu'il y a 17% de baryons et le reste en matière noire. On s'attendrait à ce que tous les objets qui se forment aient cette fraction universelle de 17%. Eh bien, pas du tout. Donc les galaxies, on ne sait pas, on ne comprend pas bien pourquoi, les galaxies se sont débarrassées de tous leurs baryons. Les galaxies naines, elles sont faites de matière noire. Les galaxies moyennes, un peu moins. Et puis, dans les amas, on voit arriver tous ces baryons qui commencent à être visibles. Pas complètement, on n'a pas 100%, mais on a beaucoup plus de baryons dans les amas que dans les groupes, dans les galaxies, etc. Alors, c'est là qu'on a pu mettre en évidence, et relativement récemment encore plus, car on a des courbes de rotation maintenant très très propres. Alors pourquoi elles ne sont pas propres d'habitude? C'est que les galaxies sont un disque, mais ils peuvent être très perturbés par des interactions avec des galaxies voisines, etc. Donc, le plan n'est pas dans le même plan, donc la vitesse, il faut quand même déprojeter. Et si le plan est tordu, corrigé, etc., on se trompe beaucoup, il y a des barres d'erreur énormes. Donc on a pris à peu près 200 galaxies qui étaient vraiment très très propres, non perturbées, etc. Et quand on regarde la fraction de gaz, on a pris des naines. Alors, la couleur ici, c'est la fraction de gaz. Vous voyez que lorsqu'on a des galaxies très massives, des spirales très massives, elles ont perdu leur gaz. Et ça, on le sait, que les naines ont beaucoup plus de gaz que les grosses. Elles ont formé plus d'étoiles, alors que les naines n'ont pas formé des étoiles. Donc ça, c'est un peu logique. Hein. Alors, la grande relation, là, ce qu'on appelle Rydell Acceleration Relation, justement, c'est celle-ci. Donc là, on a 200 courbes de rotation. Les courbes de rotation, ça veut dire des vitesses de rotation en fonction du rayon. Donc on a plein de points. On a 2700 points indépendants ici, à différents rayons dans toutes les galaxies. Et voici ce qu'on a pu mettre en évidence. L'héliheptale, par exemple. En abscisse, vous avez la force baryonique. Hein. Par exemple, si on suppose que la trajectoire est circulaire, pour simplifier. Donc l'accélération de la gravité, c'est V2 sur R. Une trajectoire circulaire. Donc c'est le gradient de phi du gradient potentiel du baryon. Alors les baryons, c'est la matière visible. On prend la matière, le gaz et les étoiles que l'on voit. On peut en déduire la force baryonique à laquelle on s'attend. Et puis ici, c'est la vitesse que l'on mesure. Donc c'est l'accélération totale avec la matière noire. On mesure V et là on mesure la masse visible et on en déduit ce qui est dû au baryon. Alors voyez que lorsqu'on a une forte accélération, les deux sont égales. C'est ce que je disais au début. lorsqu'on a beaucoup de matière visible, on n'a pas besoin de matière noire. Hein, les deux accélérations sont complètement égales. Et puis, lorsqu'on arrive à des petites masses, et puis des petites accélérations, c'est-à-dire des petites brillances de surface, donc des naines, etc., à ce moment-là, il y a un départ. C'est ce qui a justement porté certains qui ont dit « Bon, ben, on va peut-être changer la loi de gravitation. » Et de quoi il faut la changer ? Mais il faut la changer comme ceci, c'est-à-dire à faible accélération, alors en dessous d'une accélération A0 ou G0, si vous voulez, limite, qui est à peu près là. À ce moment-là, vous dites que l'accélération observée, c'est la racine carrée de l'accélération newtonienne et puis cette accélération-là. Si vous faites cette approximation, vous pouvez reproduire toutes les courbes de rotation de galaxies. Alors, donc ça donne un grand rôle aux baryons, parce que finalement, il suffit de connaître les baryons pour savoir où est la matière noire. C'est pas n'importe quoi. On dirait qu'elles ne sont pas dissociées. Alors, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas où sont les baryons. C'est pourquoi, quand on fait des modèles, on essaie d'avoir des contraintes pour savoir si c'est la matière noire, la gravité modifiée, etc. On a toujours un degré de liberté, on peut s'en sortir, même s'il y a une contrainte, ça ne marche pas. Il suffit de mettre un peu de baryons, et ça va marcher, si on a beaucoup de baryons noirs. Et c'est ça qui nous embête pour faire des contraintes, c'est pour ça qu'on est toujours en train de parcourir plusieurs pistes. Alors pourquoi ? On sait que dans le total de l'univers, on a 100% de l'univers, on a 70% d'énergie noire, dont je ne parle pas aujourd'hui, on a 25% de matière non baryonique et 5% de baryons. 5%, c'est 5%, on a énormément d'expériences qui nous disent que c'est vraiment 5%, par exemple, déjà Gamow dans les années 40-50 avait montré qu'il fallait la nucléosynthèse primordiale pour expliquer toute l'abondance des éléments légers, l'hélium, le deutérium, etc. dans l'univers. La fabrication de l'hélium dans les étoiles à partir de l'hydrogène ne suffit pas. Donc on a 10% d'hélium en nombre et 24% en masse, et ça vient de la nucléosynthèse primordiale. Donc il nous faut un premier quart d'heure d'univers de Big Bang, très chaud, où on a beaucoup plus que 10 millions de degrés, on a des réactions nucléaires qui brûlent tout l'hydrogène en hélium. Et c'est de là que vient notre hélium et le deutérium. Le deutérium se détruit ensuite dans l'étoile. Donc déjà en 1940, on savait qu'il y avait 5% de baryons. Si on a trop, on aurait trop de deutérium, si on n'en a pas assez, etc. Donc 5%. Et depuis, on a beaucoup d'autres expériences, comme l'observation du fond cosmologique micro-ondes, par exemple avec Kobe, WMAP et Planck, qui ont bien fixé ce 5%. Donc ça, on sait que 5% du total, c'est les baryons. Mais ce qu'on observe, c'est même pas 0,5% du total. C'est même pas 10% des baryons. Alors ce qu'on a dans les galaxies, c'est 6% de ces baryons. Dans les amas de galaxies, je vous ai dit qu'on avait 10 fois plus de baryons dans les gaz chauds que dans les galaxies. Donc ça nous fait... Alors hélas, les amas de galaxies, c'est très rare, les gros amas comme Coma, et ça ne fait qu'une fraction négligeable de toute la masse de l'univers. Donc même si on prend en compte ce gaz chaud, on n'a que 3% des baryons de l'univers. Donc vous voyez, ça fait 10% qui est vraiment visible. Après, on pense que la plupart est dans les filaments cosmologiques. On sait par les simulations numériques, une simulation est ici, que les amas de galaxies sont à la croisée des filaments, que dans les filaments, il y a des galaxies, et que ces filaments sont faits de matière noire et de baryons, et que la plupart des baryons est dans les filaments et pas dans les galaxies. On pense que, alors on le voit ces baryons, lorsqu'on fait, on prend un quasar très lointain, qui joue le rôle d'une mire, si vous voulez, qui est très très puissant, et l'observateur étant ici, on va absorber, tout ça c'est de l'hydrogène, qui va absorber, donc dans la Riemann alpha, la lumière du quasar. Donc on a des forêts Riemann alpha, n'importe quel redshift, donc décalé en fréquence, et ce qu'on appelle cette forêt Riemann alpha a permis de dire qu'il y avait peut-être 18% des baryons dans cette forêt. Alors pourquoi c'est assez incertain ? C'est que l'hydrogène, l'hyman alpha, c'est l'hydrogène neutre, et c'est une fraction négligeable. Ce qu'il faut faire, c'est avoir l'abondance des éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène, pour connaître la fraction ionisée. Et en fait, les baryons sont ionisés là-dedans. Donc on a extrapolé d'un facteur plusieurs ordres de grandeur pour trouver le 18%. Donc c'est assez incertain, parce que ce qu'on mesure en vrai, c'est vraiment le neutre. Donc 18%, c'est à peu près le consensus. Et puis, il y aurait peut-être un milieu qu'on appelle WIM, qui est à la fois tiède et chaud, c'est-à-dire il n'est pas trop chaud parce qu'on le verrait en rayons X, il n'est pas trop froid, on le verrait en H alpha. Donc on est dans une période où on ne le voit pas. On choisit la température pour ne pas le voir. On devrait peut-être le voir dans la Rego 6, mais on ne les voit pas. Donc là, on suppose qu'il y a peut-être 10% là-dedans. Et vous voyez que si vous sommez tout ça, plus de la moitié n'est toujours pas identifié. Donc on a plein de baryons noirs. Donc si vous avez un problème, dans les amas de galaxies par exemple, vous saupoudrez tout de baryons. Il y en a plein dans notre réservoir. On sait qu'il y a 5% de baryons. On ne sait pas où ils sont. Et on sait qu'ils ne sont pas dans la galaxie. Parce que si c'était dans la galaxie, on aurait une courbe de rotation qui serait beaucoup plus haute que ce qu'on voit. Alors, justement, quelques développements récents, est-ce qu'on a pu identifier un petit peu ça par l'effet Sunyaev-Zeldovich, qui est un effet de perturbation du milieu ionisé sur le fond cosmologique. On a pu détecter, alors par exemple ici, on a deux amas, enfin, deux petits groupes de galaxies qui ont beaucoup de gaz chaud. Donc, c'est normal, on voit ces deux gaz chauds, et puis on a essayé de soustraire ces deux, et voir si dans le filament qui est entre les deux groupes, il y aurait du gaz ionisé. Et on en a vu un petit peu. Donc deux groupes ont fait l'expérience et ont vu qu'en effet, on pouvait peut-être atteindre 30% de baryons dans ces forêts de Riemann alpha. Donc cette fois-ci, on atteint au gaz ionisé, donc pas seulement à l'arrêt d'absorption de forêt Riemann alpha. Et on confirme qu'il y en aurait peut-être un certain nombre. Mais pas, ça n'a pas résolu notre problème. Il y en a toujours 60% de inconnus. Vous voyez qu'on cherche de toutes les façons, de nombreuses façons de détecter où sont ces baryons. On cherche aussi de cartographier la matière noire. On y arrive, ça, cartographier la matière noire, ça c'est plus facile, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on cartographie la masse totale par les lentilles gravitationnelles. C'est un peu le travail du géographe, de Vermeer. Donc ici, vous avez un champ assez riche, un amas de galaxies. Vous voyez qu'il y a une galaxie centrale d'amas, une tas de galaxies d'amas. Ce que vous voyez bien, c'est une vue de Hubble Space Telescope, des petites galaxies qui n'ont pas la même couleur, donc qui sont certainement pas dans l'amas. Cette galaxie bleue, c'est des galaxies de fond qui ont été amplifiées par l'amas qui sert de lentille gravitationnelle et qui ont parfois déformé et fait des arcs. On voit un arc orange ici, on voit un autre arc ici. Et si vous regardez bien, vous voyez des tas de petits arcs. Et donc ça fait un petit peu... comme lorsque vous regardez avec une bouteille, vous voyez le paysage, il est déformé en forme d'arc. Donc là, c'est un effet d'optique, lentille optique, si vous voulez, mais lentille gravitationnelle. Et donc, avec ces lentilles faibles, on voit qu'il y a des lentilles fortes parfois, mais il y a beaucoup plus. Toutes ces petites galaxies sont déformées. C'est un petit peu comme la limaille de fer qui va être alignée avec cet effet gravitationnel. Et donc, maintenant, on sait faire ça, c'est-à-dire regarder des millions de galaxies d'arrière-plan, et regardez leur orientation statistique. Alors voici un petit peu ce que l'on fait ici. Vous voyez qu'on a des tas de galaxies de fond. On met une lentille devant. Alors on a d'abord les arcs, les lentilles fortes. Et puis tout ça est déformé. C'est des lentilles faibles. Les lentilles faibles, c'est un petit peu, il faut beaucoup, une grande statistique, parce que les galaxies ne sont pas, toutes la même forme. On peut avoir des galaxies qui sont vues par la tranche... un peu plat, donc ça c'est peut-être une forme intrinsèque. Donc il faut travailler sur la statistique pour avoir une petite idée de la déformation globale. Et de cette déformation globale, on en déduit la masse totale qu'il y a sur la ligne de visée, c'est-à-dire sur un cylindre, hein. On ne peut pas avoir quelque chose de volumique, mais on a toute la masse qui est dans le cylindre. À chaque fois qu'on regarde un certain cylindre, là, on a toute la masse. Et c'est ainsi qu'on peut cartographier la masse noire, la masse totale. Et puis on va soustraire la masse visible. Alors voici un des, on appelle ça cisaillement gravitationnel. Voici une de ces cartographies. Ici, on a la masse visible qui est obtenue en rayons X, puisque dans un amas, en fait, l'essentiel de la masse est dans le gaz très chaud, à 10 millions de degrés. Donc ça, c'est la masse visible. Et puis, la matière noire, déduite par les lentilles gravitationnelles. Vous voyez que si on les superpose, c'est presque au même endroit. Alors évidemment, il y a des erreurs, hein, puisque... c'est lentille, c'est statistique. Donc parfois, vous avez l'impression que c'est un peu décalé, mais la plupart du temps, c'est bon. Donc on pense que c'est vraiment... Là, par exemple, vous avez un trou, un vide, et le vide est vide, à la fois en matière noire et en matière visible. Il n'y a pas... La matière noire ne remplit pas les trous de matière visible. Donc vous avez une bonne association matière noire, matière visible, à grande échelle. Et puis, il y a cette fameuse relation d'échelle qui a été découverte par Tully et Fischer en 78. Donc ça, c'est la relation historique en fait, et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont regardé des tas de courbes de rotation de spirale. Donc, ils ont pris le plateau de la courbe de rotation, hein, sur le maximum de vitesse, et puis ils l'ont déprojeté quand même. Hein, déprojeté. Et puis, ici, c'est la luminosité, en rouge, parce qu'en bleu, on est très perturbé par la poussière, etc. Donc, on l'a pris en rouge. Et ce qu'ils ont vu, c'est une bonne relation. Alors, ici, si vous voulez, vous avez la matière noire, parce que la plupart des plateaux sont de la matière noire. Ici, c'est la matière visible. Vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation entre matière noire et matière visible. Alors, leur but à eux, à l'époque, en 78, c'était de trouver un indicateur de distance. Et c'est vrai que c'est un très bon indicateur de distance, parce que la vitesse ne dépend pas, c'est par effet Doppler. Par contre, vous avez de la luminosité intrinsèque de la galaxie. Donc, une fois que vous avez de la luminosité apparente, vous avez la distance si vous avez cette relation. Il suffit de calculer là, et puis vous avez la distance. Donc, pour eux, c'est un indicateur de distance, mais on voit bien que, pour nous maintenant, c'est un indicateur de matière noire et de corrélation. Alors, on s'est aperçu que ça marchait très bien pour les grandes galaxies, et pour les petites, il y avait un problème, simplement parce que les petites sont dominées par le gaz. Donc, ils avaient oublié de prendre le gaz. Donc, vous voyez que les petites galaxies naines ici, elles étaient en dessous. En fait, ce n'est pas la luminosité rouge qu'il faut prendre, qui sont les étoiles, mais c'est la masse totale, étoile plus gaz. Donc, pour les naines où le gaz domine, vous prenez toute cette masse, vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation. Donc, c'est matière baryonique totale, ici, qu'il faut prendre en fonction de la vitesse totale, c'est la masse totale ou matière noire. Donc, une très bonne corrélation entre matière noire et matière visible. Ça, c'est encore une contrainte que doivent vérifier tous les modèles. Alors justement, je vais en parler maintenant, ça c'est une version plus moderne de cette relation. Donc on a la vitesse, ou la masse du halo, si vous voulez, et la masse des baryons. Ce que produit, ce que prédit le modèle standard, alors je vais expliquer un petit peu qu'il y a plusieurs modèles de matière noire, il y a un modèle de matière noire froide, une matière noire chaude et tiède, matière non baryonique, et le modèle standard actuellement, c'est que astrophysiciens adoptent à 90% pour faire des modèles, c'est le Cold Dark Matter, donc CDM. Je vais décrire un peu plus tard ce qu'il est. Donc ce modèle standard va nous prédire cette courbe. Donc quelque chose qui va en V3. Alors déjà la pente n'est pas tout à fait la même, enfin ça c'est pas énorme puisque là c'est V4 qu'on observe et c'est V3 qui est prédit. Mais ce qui est plus frappant, hein, ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'on est bien au-dessus. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on a prédit avec une simulation de halo noir, et puis dans chaque halo noir, on met la fraction universelle de baryons, 17%, donc FB qui est 17%, et vous voyez qu'on prédit beaucoup plus de baryons, et surtout pour les galaxies naines, hein, on a plus qu'un facteur 10, 100 fois plus. Donc, où sont tous ces baryons? Il faut dire que la plupart des galaxies n'ont pas tous les baryons auxquels on pourrait s'attendre. Alors, que faut-il? Dans les modèles standards ici, on va se débrouiller. On va dire que dans les petites galaxies, que va-t-il se passer? Il va y avoir des premières étoiles qui se forment. Au départ, les baryons sont 17%. Il va se former des étoiles. Et puis les étoiles, par les supernovae, vont échapper le gaz. Alors ça, c'est peut-être possible, parce que l'énergie d'une supernovae, elle équivaut à fournir au gaz une vitesse de 100 km par seconde, la vitesse d'échappement. Pour une toute petite galaxie qui a peut-être 50 km par seconde. Donc là, on va peut-être pouvoir expliquer par les supernovae, ce qu'on appelle le feedback de la supernovae, le fait que tous les baryons sont sortis de la galaxie. Pour les massifs, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que 100 km, c'est très peu, c'est pas du tout la vitesse d'échappement. Donc les supernovae ne vont pas faire échapper le gaz ici. Donc pourquoi ils ne forment pas des étoiles? Alors, ce qu'on prend comme solution, c'est de dire que les grosses galaxies ont un trou noir centrale très important, et ça c'est vrai. On sait que la masse d'un trou noir supermassif au centre des galaxies est proportionnelle à la masse du bulbe. Il y a un rapport de proportionnalité de 0,2 ou 0,3%. Et donc, dès qu'on a un trou noir, on a énormément d'énergie. Hein, les quasars, qui sont les trous noirs qui sont au centre des galaxies, peuvent avoir, lorsqu'ils sont très actifs, 1000 fois plus de luminosité que toute la galaxie réunie. Donc si le couplage entre cet énorme rayonnement du trou noir et la galaxie était effectif, on pourrait détruire la galaxie. Le trou noir pourrait détruire cette galaxie. On ne veut pas que le couplage soit très très efficace, sinon on n'aurait plus de galaxie. Mais on va penser que de toutes ces galaxies, on va supposer que les trous noirs sont capables d'éjecter tous les baryons des galaxies. Alors, on a plusieurs relations d'échelle, là, qui ont été vérifiées, qui toujours sont des contraintes pour les modèles, hein, c'est pour ça que je le donne. Ici, on a des galaxies naines, qui ne sont pas du tout dans ces relations d'échelle. Alors, ces relations d'échelle, il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas les décrire toutes. En fonction du rayon, la densité, c'est-à-dire qu'on a déterminé que la densité de matière noire était plutôt en 1 sur RC, c'est-à-dire plus le rayon était petit, plus elle était concentrée. En fonction de la luminosité, de la dispersion de vitesse aussi, etc. Et on découvre toujours, je vais peut-être le simplifier ici, cette densité de surface de la matière noire qui est constante. Ici, vous avez, en fonction de la luminosité de la galaxie, c'est plutôt les magnitudes, mais ça va à l'envers, donc ici, c'est les grandes luminosités. Vous voyez en vert toutes les petites galaxies, et puis les grosses galaxies ici. Et puis cette densité de surface qui est constante, c'est la matière noire. Les points noirs, c'est la matière noire. Donc la densité de surface de la matière noire paraît constante, alors que celle des étoiles ne l'est pas. Hein, vous voyez, cette étoile a une certaine grande variation. Et ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on arrive à la matière noire, on part dans l'autre sens. Ça, c'est pas encore bien compris, mais c'est un fait. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est connu depuis au moins 10 ans, en 2009 déjà, Donato le donnait. Donc ils avaient pris pour un grand nombre de galaxies, des grosses galaxies, des petites galaxies, ils avaient mesuré le rapport, la densité centrale et le rayon, donc c'est-à-dire la densité de surface, toujours, de matière noire, et les constantes pour très grande gamme de galaxies, alors que la densité de surface des étoiles ne l'est pas. On a des faibles, des... Donc tout ça, ça nous donne un petit peu cette fameuse accélération critique dont je vous parlais, parce que la densité de masse, hein, c'est m sur r2 et c'est une accélération. C'est cette accélération critique qui nous fait apparaître dans la matière noire. Alors ces types de matière noire dans le baryonique, je n'ai peut-être pas encore décrit à quelle période on s'est aperçu qu'il fallait de la matière noire non baryonique. Hein, je vous ai dit que c'était à peu près en 1985. C'est arrivé parce que on s'est aperçu que les fluctuations au départ de l'univers, après le Big Bang, on a très très faible fluctuation, on essaie de calculer. Ensuite, Kobe est arrivé en 1990, mais auparavant, il y avait des manips au sol qui le mesuraient, et on ne les trouvait jamais. C'est-à-dire que lorsqu'on regardait la fluctuation dans le fond cosmologique micro-ondes, le vestige du Big Bang, on voyait des fluctuations qui, on va le voir avec Kobe, sont que de 10-5. Donc 300 000 ans après le Big Bang, vous n'avez toujours que 10-5 de fluctuations. Ça, c'est impossible d'avoir que des variants. Parce que dans l'univers en expansion, les structures ne peuvent pas se former très vite. L'expansion contrecarre la gravité et les fondements des structures. Donc on peut montrer qu'une structure ne s'effondre que comme la taille de l'univers. La taille de l'univers, c'est aussi le décalage vers le rouge, c'est-à-dire Z, 1 plus Z, si vous voulez. Voilà, le décalage de la longueur d'onde du photon. La longueur d'onde du photon, c'est exactement la taille de l'univers. Hein, pourquoi le photon est rouge? C'est que la taille de l'univers s'expand et le photon s'expand de la même façon. Donc lorsque vous recombinez votre atome d'hydrogène, les protons et les électrons en atome d'hydrogène, la température est de 3000 degrés. C'est à cette température-là que l'atome se recombine. Et ça correspond, puisque la température du fond est de 3,1 plus Z, ça correspond à Z égale 1000. Et on peut montrer que la structure va s'effondrer comme la taille de l'univers, donc un facteur 1000. Si vous avez des perturbations de 10-5 qui vont s'effondrer à la facteur 1000, c'est-à-dire des baryons qui vont commencer à s'effondrer que lorsque les protons et électrons deviennent atomes d'hydrogène, vous n'avez pas de galaxie aujourd'hui. Donc on s'est aperçu à ce moment-là qu'il nous fallait absolument de la matière noire qui n'interagit pas avec les photons. Alors la matière noire, en effet, elle ne rayonne pas, elle n'a aucune interaction avec les photons. Et à ce moment-là, elle peut s'effondrer sur elle-même bien avant la recombinaison des baryons. Donc ce n'est pas à Z égale 1000 lorsque la température est 3000, mais bien avant, à Z égale 1000 ou 4000, 5000. Donc à ce moment-là, dans l'univers, en fait, les premières structures qu'on forme sont des galaxies de matière noire. Uniquement. Les baryons, eh bien, ils sont en équilibre avec les photons, ils forment des ondes sonores, etc., des ondes acoustiques. Et puis ce n'est que lorsque vous recombinez les baryons en atomes d'hydrogène que les baryons tombent dans les galaxies de matière noire et puis forment des étoiles. Il nous faut absolument ce support de matière noire, sinon pour notre galaxie. C'est ça qu'on s'est on s'est rendu compte en 85 de cela. Donc il nous faut absolument de la matière noire, et puis peu à peu, avec OB, avec WMAP, etc., on a compris qu'on en avait 25% et 5%, etc. Donc pour les types de matière noire, donc non baryoniques, ces trois modèles sont possibles. Alors, on a très vite éliminé celui-là. Celui-là chaud, ça veut dire quoi? Chaud, froid, tiède. Ça veut dire que lorsqu'ils se découplent du reste, ils ne sont pas relativistes. Donc ici, on pensait au départ aux neutrinos. Parce que les neutrinos, on sait que maintenant, ils ont une masse. Très petite, soit. Mais enfin, ils ont une masse. Et il y en a énormément. Comme des photons, en fait, pratiquement. Après le Big Bang, il sort énormément de neutrinos. Il y a à peu près 400 photons par centimètre cube du fond cosmologique, là, dans cette pièce. Mais vous avez aussi 300 neutrinos par centimètre cube dans cette pièce qui viennent du Big Bang. Donc on a énormément de neutrinos. S'ils ont une certaine masse, ça pourrait être ça. Mais ils sont très légers, donc ils sont relativistes lorsqu'ils se découpent. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils éliminent toutes les petites structures. Vous voyez qu'il n'y a que des grandes structures. Et ça, ça ne correspond pas du tout aux observations. Ça, ce sont des simulations, là, avec des neutrinos, donc une matière très chaude. Et on n'a que des grandes structures, qui ensuite vont se fragmenter et former des petites. Ici, on a une matière noire froide, donc qui est assez massive. Donc, des particules un petit peu 100 fois la masse du proton, par exemple. Et à ce moment-là, toutes les petites structures se forment parce que la matière noire n'est pas relativiste. Donc ne présente pas de pression pour empêcher l'effondrement des structures. Et donc vous avez des tas de petites structures, ce qui correspond, il y a un peu trop de petites structures d'ailleurs, ce qui serait mieux, ce serait tiède. C'est-à-dire quelque chose qui élimine les petites structures qui ne sont pas observées, mais qui n'a pas que des grandes structures. Mais on va voir que finalement, c'est celui-là qui est le meilleur candidat. Alors, il est le meilleur candidat, mais justement, comme je viens de le dire, il y a trop de petites structures prédites. Alors, trop de petites structures, ça veut dire quoi? On s'est aperçu en faisant des simulations avec beaucoup de résolution. Par exemple, ça, c'est la simulation de la Voie lactée. On a un halo noir qui correspond à la Voie lactée. Et puis, vous voyez, il y a 4000 petits compagnons. Ça, c'est des halos noirs, des petits halos noirs, petites structures. Et plus on a de résolution, plus on a de petits halos noirs comme ça. Autour de la Voie lactée, on voit 12 compagnons, peut-être si on regarde bien, 20 compagnons, mais pas 4000. Et donc, on a trop de petites structures. Alors, la résolution, c'est de dire, ah, on a plein de galaxies noires qui nous entourent. On ne voit pas. Le problème, alors ici, justement, c'est un diagramme qui montre la masse des étoiles sur la masse totale, si vous voulez, la fraction de matière noire multipliée par la fraction universelle de baryons, donc celle qu'on devrait voir, et puis en fonction de la masse du halo noir. Donc ce que prétendent donc les tenants du modèle CDN, c'est que cette courbe-là devrait être comme ceci, c'est-à-dire que toutes ces petites galaxies devraient être noires. Pourquoi elles devraient être noires? C'est qu'on ne les voit pas. On ne voit pas les 4000 satellites prévus par la simulation, on ne les voit pas, donc ils devraient être noirs, donc ils ne devraient pas avoir d'étoiles. Les baryons ne devraient pas se former en étoiles. Mais on a détecté des petites galaxies, il y en a une vingtaine, ce sont des galaxies vraiment très très faibles. Je ne sais pas si vous voyez la galaxie ici, il y a une galaxie, il y a des quelques étoiles ici, c'est une galaxie de brillance de surface très faible, et on appelle ça donc des dwarf spheroidales, c'est que des étoiles, il n'y a pas de gaz. Mais en fait, quand on regarde leurs étoiles, elles sont là. Elles n'ont pas beaucoup d'étoiles, mais quand même, elles sont visibles. Elles ne sont pas du tout dans ce qui est prévu. Donc là, il y a un gros problème de satellites qui n'est pas encore résolu. Ça, c'est un des problèmes, pas le seul. Et on a essayé évidemment de détruire tous ces petits satellites, les 3000 qu'on devrait voir. Il y a ce fameux problème qu'elles sont trop grosses. En effet, elles sont grosses, c'est-à-dire qu'on voudrait les éliminer. Par exemple, on voudrait qu'il y ait beaucoup de supernovae au départ et qu'ils échappent tout le gaz et qu'on ne voit plus rien. En fait, ce n'est pas possible. Elles sont trop, trop grosses. Et en fait, il pourrait aussi y avoir un phénomène de réionisation au début de l'univers lorsqu'elles sont balayées par du gaz très chaud. Mais on a montré qu'elles étaient trop grosses pour être éliminées. Donc finalement, toutes les solutions qui ont été proposées pour l'expliquer n'ont pas réussi. Quand on regarde les simulations numériques qui mettent beaucoup de feedback de supernovae, etc., on prédit toujours une courbe de rotation comme ceci, et tout ce qui est observé est bien en dessous. Donc, elles n'ont pas autant de matière noire, elles ont quand même beaucoup d'étoiles. D'autre part, quand on regarde aussi les prédictions, on n'a pas du tout la même concentration. Par exemple, la Voie lactée ici, avec toutes les petites naines qui ont été détectées autour. On a une naine du Sagittaire, on a évidemment les deux nuages au Magellan, à l'MCSMC, qui sont assez gros, très visibles. On a Fornax, je vous ai montré la petite naine, là, on en a toute une flopée, mais elles sont très très concentrées. Alors ce qu'on prédit, c'en est 4000, mais très loin. Donc on n'a pas du tout la même distribution spatiale de ces satellites. Donc là, pour les satellites, ça ne marche pas du tout. Donc les prédictions du lambda CDM. Alors quelque chose qui marche bien, par contre, ce sont les amas. Les amas de galaxies et les grandes structures, dans le modèle standard lambda CDM, ça marche très très bien. Et par contre, pour les modèles de gravité modifiée, ça ne marche pas du tout. Donc là, voici un des arguments qui marche d'un côté, pas de l'autre, comme piste. Alors, vous avez sans doute entendu parler d'amas du Boulet. C'est une collision de deux amas de galaxies. Vous avez un petit amas ici, qui a traversé le gros amas. Ce que vous voyez en rouge, c'est le gaz très chaud, le gaz en rayons X à 10 millions de degrés. On voit que le satellite changera. Alors, on voit même une onde, un beau choc, ce qu'on appelle un beau choc, qui dit en fait l'angle de ce cône vous donne la vitesse de passage, hein, l'angle de Mach, là, c'est 4700 km par seconde. Cette vitesse de petit amas dans le grand, on a de la chance de voir la collision dans le plan du ciel, parce que si elle était vers vous, on n'aurait pas bien vu ça. Mais là, il est venu vraiment dans le plan du ciel. On voit en bleu, qu'est-ce que c'est? C'est la masse totale qu'on a déduit de la cartographie des lentilles gravitationnelles. Donc on pense, grâce à toutes les galaxies de fond, que la masse est là. Alors la masse en bleu, c'est à la fois la masse visible et invisible. Mais surtout invisible, parce que c'est ça qui domine. Et ce que vous voyez, c'est que la masse visible, qui est surtout le gaz chaud, est dissociée de la masse invisible. Ça, c'est très intéressant. C'est la première fois qu'on dissocie. Je vous avais montré des cartes de matière noire où la masse visible et invisible étaient toujours associées. Et là, c'est la première fois, grâce à une collision, que l'on a dissocié les deux. Alors, c'est très intéressant de savoir ça. Alors, évidemment, quand on dit qu'il y a une gravité modifiée, il faut toujours que ce soit associé, puisque si vous changez la loi, on pourra toujours dire, bon, ben, on a des baryons, et ensuite, on va broder autour de ces baryons. Mais si les baryons ont la matière... Donc là, les tenants du CDM ont dit, bon, c'est une preuve que la matière noire existe, et que ce n'est pas un changement de loi. Enfin, on va voir que ce n'est pas si simple, en fait. Parce que la loi est modifiée surtout lorsqu'il y a une accélération faible. Et là, elle n'est pas forcément modifiée. Donc là... C'est pas aussi clair, mais quand même, c'est un très très bon argument pour dire que la matière noire existe et en gravité modifiée, les tenants de cette théorie ont plutôt associé des neutrinos pour combler un petit peu le manque et c'est pas du tout satisfaisant. Alors, de ces galaxies de boulets comme ça, il y en a un certain nombre qui a été détecté aujourd'hui, 72. C'est pas un cas aussi simple que le boulet ici, parce que l'angle de vision de ces collisions d'amas ne sont pas aussi favorables. Alors on a un baby boulet comme ça, mais à chaque fois, on a quand même une dissociation entre le gaz et la matière noire. Le gaz n'est pas au même endroit, vous voyez, l'offset, la séparation du parsec, alors que le gaz et les étoiles... Alors les étoiles et les galaxies, elles ne se voient pas non plus. Je n'ai pas... peut-être un peu décrit ce qu'il a donné ici. Le gaz, pourquoi le gaz s'arrête dans la collision? C'est que c'est du gaz diffus qui rentre en collision. En fait. Donc, dans une collision, il va s'arrêter. Vous voyez que celui-là est passé ici, mais les galaxies, elles ne se sont pas vues. C'est comme la matière noire, elle ne rentre pas en collision. Donc, on le suppose. Et c'est justement avec ça qu'on va pouvoir mettre une limite supérieure à la section efficace de collision de la matière noire. On ne sait pas ce que c'est, donc on pourrait... Certains avaient proposé que la matière noire avait une interaction de collision, c'est ce qu'on appelle le self-interacting dark matter, justement pour éviter qu'il y ait trop de concentration de matière noire. Mais là, maintenant, on a une limite de la section efficace de collision de la matière noire. Et puis, les galaxies ne se voient pas. Vous allez dire pourquoi ne se voient pas. C'est que les galaxies sont très ponctuelles par rapport aux amas. Les galaxies se traversent sans se voir, comme la matière noire. Ok. Alors, d'autres contraintes. Une contrainte sur la matière tiède. La matière CDM, on a vu, avait beaucoup, beaucoup de problèmes sur les satellites. Donc, on pensait à la matière tiède qui fait beaucoup moins de petite échelle. Alors, pour ça, il faut des particules qui ont de l'ordre de quelques keV en énergie, et non pas de 100 mèv, comme pour la sélène. Pour ces neutrinos, on a la forêt Lyman alpha comme contrainte. C'est les meilleures contraintes. Alors, vous voyez ici, on a une de ces forêts en fonction de la vitesse, du décalage vers le rouge. Et on a une structure à une dimension, d'accord, mais en fait, c'est une structure quand même, devant un quasar. Alors, voici un quasar. Et la ligne de visée devant le quasar. Et on voit la structure à petite échelle. Donc, soit en vert, c'est la CDM. Et ici, c'est la matière noire warm, c'est-à-dire tiède. La matière noire tiède avec une masse de 1 keV ou 2 keV. Donc plus la masse est grande, plus la qualité de tiède va devenir de plus en plus froide. Plus la masse est grosse, et plus vous allez avoir une matière un peu plus froide. Donc évidemment, si c'est trop froid, on va avoir trop de petites structures. Si c'est trop chaud, on n'en aura pas assez. Donc on essaie de régler quelle est la masse de cette particule pour qu'il y ait à peu près la bonne structure. Et en fait, on commence à trouver que ça doit être supérieur à quelque chose d'assez gros. Ça devient de plus en plus froid. Donc, à quelle particule on pense quand on pense à cette matière tiède? Eh bien, c'est ces fameux neutrinos stériles. On ne sait pas s'ils existent. Hein, je vous ai fait un tableau récapitulatif de la matière standard, le modèle standard des particules, où on a tous les quarks ici, donc les baryons qui forment les protons et les neutrons, et puis les leptons. Les leptons sont de trois sortes, hein, électrons, muons, taux, avec leurs neutrinos et leurs particules. Donc tous ces trois, on sait que les trois neutrinos existent, ils s'échangent, hein, c'est ça qui a permis de résoudre le problème des neutrinos solaires. On ne détectait que les neutrinos électroniques, en fait ils sont trois, ils s'échangent, et le fait qu'ils s'échangent entre eux fait qu'ils ont une masse. On ne sait pas vraiment quelle masse ils ont, mais ils ont une masse de 0,2 eV maintenant, aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui on prend en compte cosmologiquement, mais ça ne fera pas du tout la matière noire. Donc, d'où la nécessité d'inventer d'autres neutrinos. On les appelle stériles parce qu'ils interagissent avec rien, c'est pour ça qu'on ne les a pas vus, ils sont encore invisibles, alors que les autres sont actifs. Ils interagissent avec les électrons, etc. On les voit. Donc, on a des télescopes à neutrinos, on détecte ces neutrinos-là. Évidemment, là, ces neutrinos-là, on ne les détectera jamais, ils sont stériles. Et puis, on pense qu'il y a une symétrie. Pour l'instant, ils sont tous de chiralité gauche. Pourquoi pas en avoir droite, et donc ces neutrinos stériles seraient de l'autre, le spin en fonction de leur moment de l'air serait opposé. Donc ces neutrinos stériles, maintenant, commencent à en avoir des limites un peu plus fortes. Hein. Il y a des grands surveys de quasars qui ont été faits, des centaines de quasars, avec BOSS aussi un grand survey, et on a des limites qui cette fois-ci sont de 4 keV, donc un peu plus froid. Et puis, on a une production soit résonante, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu technique, on a plusieurs productions de ces neutrinos stériles, et pour ceux qui sont à production résonante, ce serait même 25 keV. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus froid, et finalement, le bénéfice par rapport au modèle standard CDM n'est pas énorme. Alors, il y a récemment, on a pensé à des trous noirs primordiaux, comme matière noire, ça a été un petit peu mise en lumière par les ondes gravitationnelles. On sait qu'on a détecté des ondes gravitationnelles avec des fusions de trous noirs qui étaient assez massifs. Mais à mon avis, on les a déjà éliminés depuis un certain temps. Mais enfin, je vais quand même dire de quoi il s'agit. Il s'agit de trous noirs qui se forment très très tôt dans l'univers. Hein. À un moment où l'univers est dominé par le rayonnement, il n'y a pas de matière. Donc on peut considérer que ces trous noirs sont de la matière non baryonique. Ce n'est pas des trous noirs qui se forment après, parce que les trous noirs qui se forment après à partir des étoiles sont baryoniques, et ils auraient rejeté des éléments lourds dans le milieu, hein, deutérium, etc. Et ça ne marche pas du tout. Donc, c'est pas des trous noirs, c'est que des trous noirs primordiaux, matière non baryonique. Et à quelle période ils se forment? Vous voyez, 10-5 grammes à 10-43 secondes. On peut aller jusqu'à 10-5 secondes maximum. Donc c'est 10-5 secondes première de l'univers, où on peut former jusqu'à une masse solaire. Et vous voyez que d'après la théorie de Stephen Hawking et de la thermodynamique des trous noirs, le trou noir est d'autant plus chaud qu'il est petit. Et donc tous les petits trous noirs s'évaporent. On n'en aurait plus aujourd'hui s'ils étaient tous inférieurs à 10 puissance 15 grammes. Donc tous ceux-là sont évaporés. Donc il faut penser qu'ils sont entre ça et ça. Parce qu'on voit encore la matière noire aujourd'hui. Tout n'est pas évaporé. Donc on va regarder et puis on voit que ces masses-là sont plus ou moins éliminées par des lentilles gravitationnelles, parce que ce sont des objets compacts qui font des lentilles. Et puis, il y avait une petite plage qui n'était pas encore éliminée, et on s'est aperçu qu'elle était éliminée parce que un trou noir peut être capturé par une étoile à neutrons, et l'étoile à neutrons est complètement détruite. Donc c'est l'étoile à neutrons, on les voit. On voit des tas de pulsars. Donc finalement, je passe un petit peu vite, mais toute la gamme de masse de ces trous noirs primordiaux est éliminée, enfin, à mon avis. Tout cela par évaporation, tout cela par l'antigravitationnel. On avait fait des manips de micro-lentilles sur la Voie lactée qui ont éliminé des tas de masse. Et puis tout ce qui n'était pas éliminé est éliminé par la capture par les étoiles à neutrons. Donc à mon avis, les trous noirs primordiaux ne sont pas vraiment de bons candidats. Donc je passerai un petit peu. Et là, je passerai aussi. Donc, je vais quand même donner peut-être les résultats récents sur la recherche directe de matière noire, puisqu'on pense que au niveau du Soleil, il y a quand même quelques particules de matière noire, comme dans cette salle. Quand on disait qu'il était traversé par la matière noire. Donc, aujourd'hui, on détecte le meilleur instrument, c'est le xénon une tonne qui est de Grand Sasso. Il y a eu beaucoup dans l'histoire depuis 1985, ça fait 30 ans et plus que les gens cherchent cette matière noire. Au départ, il y avait des détecteurs d'un kilo, deux kilos, de manière à avoir un détecteur pur qui n'a pas de radioactivité pour faire du bruit. Hein. Donc, et quels sont les candidats qu'on essaie de détecter? Le principal, c'est le neutralino, depuis 30 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est une particule supersymétrique. On suppose que dans le modèle standard, il n'y a pas de particule qui pourrait être la matière noire. Et dans le modèle supersymétrique, neutralino serait une combinaison linéaire la plus stable d'un boson de Higgs-Sino et puis d'une autre particule. Et c'est celle-ci qu'on cherche. Maintenant, il y a les neutrinos stériles dont j'ai parlé. Il y a les axions. Les axions, c'est une particule qui a inventé pour la symétrie CP. Et ça peut avoir une masse de 10⁻²⁺ m, très 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 faible. Et puis il y a aussi les théories de dimensions supplémentaires. On peut avoir des dimensions 5, 6, 7. Donc la gravité se déplacerait dans ces autres dimensions et ça équivaudrait à avoir des particules plus lourdes que prévues, donc on aurait la matière noire comme ça. Mais ce n'est pas de nouvelles particules. Alors pourquoi le WIMP, le neutralino, a été le bon candidat pendant 30 ans? C'est qu'il y avait ce qu'on appelle un miracle. Il faut aussi qu'il y ait la bonne quantité de matière noire. Et pas seulement qu'il y ait une particule. Il faut qu'elle corresponde à 25% de matière qu'on observe. Et donc, ce miracle était sur le suivant, c'est que si ces particules s'annihilent entre elles, elles sont égales à leurs antiparticules. Donc au départ, elles s'annihilent, comme la matière d'ailleurs, elles s'annihilent avec l'antimatière, et puis ce qui arrête l'annihilation, c'est l'expansion de l'univers. Au bout d'un moment, les particules ne se rencontrent plus, parce qu'elles ont une section efficace de collision qui est celle qu'on pense de la force faible. On a pour l'instant peut-être de force, donc on va penser que c'est la force faible. Elle s'annihile avec cette section efficace. Et puis, donc, vous avez la quantité en fonction du temps, la température là, le temps ici dans l'univers. Donc elle s'annihile, et puis à un moment donné, le temps de collision devient supérieur au temps de Hubble, le temps de l'univers, et donc elle ne s'annihile plus. Vous êtes gelé. C'est ce qu'on appelle relique, l'abondance relique de cette. Et cette abondance relique, évidemment, dépend de la masse de la particule, parce qu'elle se découpe plus tard, etc. Donc, on avait 25%, c'est-à-dire la quantité de matière noire qui est requise aujourd'hui, pour une particule de 100 gel avec ce neutralino. Alors, 100 gel, vous avez bien vu qu'on a recherché cette particule au CERN dans le LHC, on a vu en 2012 le boson de Higgs de 125 gel, mais maintenant on est à 700 gel, etc., et on n'a pas vu cette particule. Donc, c'est pour ça que. On est en crise actuellement, c'est-à-dire que la supersymétrie n'a pas été vue, et surtout, notre candidat miracle n'est pas là. On cherche une particule stable, et elle n'y est pas. Donc on cherche maintenant des tas d'autres particules, des actions, etc. Mais cette fameuse qu'on a cherchée pendant 30 ans n'est pas au rendez-vous. Alors voici les limites supérieures, et le xénon un tonne, là j'ai pris ça dans la dernière colloque de Blois, en 2017, qui sont ici. Ils extrapolent, qui peuvent en faire une tonne, un trois tonnes. Et puis, à un moment, ça va s'arrêter quand même, parce qu'on va atteindre la limite des neutrinos. Les neutrinos solaires, par exemple, qui sont détectés et qui font un recul du détecteur. À ce moment-là, le détecteur deviendra un télescope à neutrinos, mais ne pourra pas détecter la matière noire. Donc, on va bientôt s'arrêter. Donc, ça, c'est quand on commençait au début, en 1985, on était très très haut. Là, c'est la section efficace de recul du nucléon. Vous voyez qu'on est à 10⁻⁷. C'est très très chaud. Alors, je vais en finir par le problème d'existence de cette matière noire. Hein. être ou ne pas être. Est-ce que cette matière noire existe finalement? Alors, depuis longtemps, hein, on avait vu même que depuis Zwicky pensait que peut-être il fallait changer la loi de la gravité. Milgrom avait proposé quelque chose de plus concret parce qu'il avait, bien vu cette histoire d'accélération critique, hein, qu'il faut de la matière noire uniquement. Alors ici, c'est quoi? C'est le rapport de la matière dynamique dont vous avez besoin pour expliquer les courbes de rotation à la matière visible. Et on voit bien que ça dépend de l'accélération. Ici, vous n'avez pas du tout besoin, hein, c'est ce qu'on disait. Et puis, un faible brillant de surface, vous avez besoin de ça. C'est vraiment une belle courbe sur plusieurs ordres de grandeur. Et donc, on suppose que faible accélération, on va avoir un changement comme ceci. Alors, ce n'est pas aussi simple, ça, c'est pour donner des ordres de grandeur, mais il y a l'élément lagrangien, on peut trouver une théorie qui décrit tout ça, une théorie covariante même. Depuis 2004, on a une théorie covariante. Et ça représente très très bien toutes les galaxies. Ça représente la relation de Fischer par construction, parce qu'on a V4, etc. Donc on représente tout ça. Et on représente à la fois des courbes de rotation qui tombent, on n'a pas besoin de beaucoup de matière noire, et les courbes de rotation qui montent. Ça, c'est ce qui est dû à la matière visible, et ça, ce qui est dû simulé avec la gravité modifiée. Et que ça marche vraiment très bien pour les galaxies. Par contre, pour les amas, on a des problèmes. Pour les amas, ça ne marche pas, on a vu. Et pour aussi la cosmologie, on a vu que ça posait des problèmes. Donc, Jacob Bekenstein, qui est aujourd'hui décédé, avait aussi étendu cette relation de monde pour les lentilles gravitationnelles. C'est-à-dire qu'il avait un champ scalaire, un champ non seulement tensoriel, mais scalaire et vecteur. Il avait besoin d'un champ vecteur pour expliquer justement ces lentilles gravitationnelles dans la théorie de gravité modifiée. Et puis aujourd'hui, on a vu que ça ne marchait pas pour les amas, etc. Donc beaucoup d'autres hypothèses, ça fleurit. Beaucoup de théoriciens proposent d'autres champs scalaires, etc. On appelle ça l'éther d'Einstein, ce qui est quand même un coup d'œil. On fait revivre l'éther. Hein. L'éther avait été abandonné au 19e siècle. Maintenant, on a encore un éther, des champs scalaires. Et puis, j'en finirai un tout petit peu avec cette nouvelle idée, qui est peut-être pas la bonne, mais enfin, qui m'a paru nouvelle par rapport à tous les champs scalaires, les quintessences et tout qu'on a observé. C'est la gravité émergente qu'a proposé Berlinder en 2016. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gravité émergente? C'est une gravité qui est due, la force de gravité n'est pas une vraie force, elle est due à l'augmentation d'entropie, maximisation d'entropie. Et elle utilise aussi le fait que l'accélération est équivalent à une température. Et ça, on le sait autour des trous noirs, par exemple. Hein, par exemple, vous avez, alors ici j'ai représenté un trou noir. On se pose la question aussi de l'information dans un trou noir. On sait que dans un trou noir tombent beaucoup de choses, des étoiles et des tas de trucs. Et par contre, une fois qu'il est tombé dans le trou noir, vous n'avez plus qu'une quantité qui est la masse du trou noir et le spin. Le trou noir n'a plus rien. Donc où est passée l'information? On s'est aperçu que l'information était sur la surface. L'information est quantifiée et toute l'information qui est dans le volume peut être représentée par la surface avec un bit quantique. Information. Donc peut-être que c'est dans la mécanique quantique qu'il faudrait chercher la solution au problème. Alors le trou noir, je vais le représenter ici, hein, on sait que Hawking avait proposé que les trous noirs s'évaporent. Pourquoi? C'est que le champ est si fort ici qu'il peut se créer dans cette grande énergie de fluctuation du vide, il peut se créer une paire particules-antiparticules. Donc une des particules, l'antiparticule par exemple, s'agrège ici. Et la particule s'en va, donc le trou noir perd de la matière. Et l'antimatière est agrégée. Donc le trou noir réduit sa masse. Donc c'est ça l'évaporation du trou noir, en quelque sorte. Et ça veut dire que plus un trou noir est petit, et le rayon du trou noir et sa masse sont proportionnels, donc plus un trou noir est petit en masse, et plus son accélération est très très forte. Et donc il y a énormément de phénomènes d'énergie, donc il est plus chaud. La température d'un trou noir est en 1 sur la masse. Donc les petits noirs sont très chauds, les gros beaucoup moins. La gravité d'un grand trou noir est très faible finalement. Donc les petits trous noirs, on voit ce phénomène-là arriver. Donc on a une température accélération équivalente, c'est le théorème du nombre. Donc il se sert de cette entropie aussi. Et qu'est-ce qu'il va prendre pour entropie? Alors d'abord, une petite analogie qui peut vous montrer pourquoi la gravité pourrait être une force qui vient de la maximisation d'entropie. Là, c'est une analogie que l'on donne, par exemple, avec un polymère qui, par entropie, va se mélanger énormément, il va mettre la résistance à l'étirement, si vous voulez, donc la force ici que vous avez exercée est proportionnelle à l'entropie, c'est-à-dire au désordre que vous avez dans ce polymère. Vous pouvez penser qu'en effet, plus il y a d'entropie, plus il y a de force. Donc la maximisation de l'entropie serait la force. Alors que propose-t-il comme entropie? En fait, il propose l'entropie d'intrication quantique. C'est là que je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais il fait des calculs d'intrication. Et il pense que, évidemment, lorsque deux systèmes sont très très intriqués d'entropie maximum, lorsqu'ils sont bien séparés d'entropie minimum, et il prend cette force, il calcule. Donc si vous êtes intéressé, vous allez voir son article, hein. Je ne vais pas le détailler en grand et en large, mais il calcule la force de gravité qui est due à cette force anthropique de l'intégration quantique, et il tombe exactement sur le résultat de Mond. Donc ça marcherait très bien pour les galaxies. Donc, c'est exactement l'accélération de A0 et la force qu'il faut pour expliquer toutes les courbes de rotation. Donc, ça paraît engageant au départ. Mais je n'en sais rien, donc je vais vous laisser sur cet état de l'art, où on sait que le gaz et les galaxies que l'on voit, c'est 0,5% du total. Hein. Je vous ai convaincu qu'on sait qu'il y a 5% des baryons, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc on a déjà un problème de baryons noirs, et puis de sa matière exotique. On ne sait plus ce que c'est maintenant. Est-ce que ce sont des actions 10-6 ou 10-22 M, certains proposent. Le WIMS, c'est un petit peu faible. Le neutrino stérile, c'est de plus en plus froid. Et les trous noirs primordiaux, ça ne marche pas. Donc, voilà, j'attends le test.
Merci. Des questions?
Quel est le principe de recherche de la matière noire, par exemple, dans le grand Sasso? On essaye de voir des collisions d'une particule de matière noire avec des...
Voilà, c'est ça. Une particule de matière noire doit faire un recul.
Oui.
À ce moment-là, on a d'énergie qui serait détectée par le détecteur. Après, il y a des dispositifs optiques pour amplifier cette énergie, etc. Je ne détaille pas, mais c'est des noyaux qui sont très très propres. Il n'y a pas de radioactivité, etc. On se met dans le tunnel pour ne pas avoir les ondes cosmiques, évidemment, sur le niveau. Donc il y a toujours un tout petit peu de bruit résiduel, mais on arrive à l'éliminer, et on s'attend à ce qu'au moins une particule de temps en temps... Alors je n'en ai pas parlé aussi, ça c'est la détection directe. Alors c'est un petit peu dangereux, parce qu'on a vu qu'au niveau du Soleil, il n'y a pas beaucoup de matière noire, donc est-ce qu'il y en a. Il y a aussi une détection indirecte par annihilation. Alors, je vous ai dit que l'expansion de l'univers a arrêté l'annihilation de ces particules de matière noire, mais lorsque on piège de la matière noire dans le Soleil, par exemple, à ce moment-là, on augmente la densité de matière noire et elle peut se réannihiler. Elle peut se rencontrer. Alors que dans l'expansion de l'univers, la matière noire elle est très diffuse, elle ne se rencontre plus. Mais dans le Soleil, dans les galaxies, ou bien un pic de matière noire. Donc les gens ont regardé si on avait des rayons gamma qui correspondaient à la masse de ces particules. Et il y a eu des fausses alertes, mais à chaque fois on a pu les expliquer par des pulsars ou des expectations astrophysiques. On n'a aucune détection indirecte par les rayons gamma.
Parce qu'il y a pas mal de fausses alertes sur ce problème.
Ah oui, énormément. Mais disons, les théoriciens sont tellement anxieux de trouver cette particule qu'à chaque fois qu'il y a un petit signal, ça pourrait être un matière noire, mais les pulsars ont beaucoup de rayons gamma. Et à chaque fois, on les explique.
Dans la théorie de la gravité modifiée, qui semble être... avant tout motivé par l'adéquation empirique, comment est considérée la dérivation qui est en partie a priori de la loi en 1 sur R carré, selon laquelle, à mesure que la surface d'action augmente, comme étant équivalente à une sphère, donc avec une R qui fonctionne en R carré, à R carré, comment est considérée cette dérivation?
En fait, ce n'est pas tout à fait comme cela que l'on prend. On part d'un champ scalaire. En fait, on rajoute des forces. On rajoute une cinquième force. À chaque fois qu'il y a une gravité modifiée, c'est qu'il y a une cinquième force. Donc, on rajoute un champ scalaire. Et on a vu, on était obligé pour le TEDES d'avoir non seulement le tensoriel, qui est de chez Einstein déjà, mais le champ scalaire supplémentaire et puis le champ vectoriel. Mais ces champs scalaires maintenant sont ajoutés régulièrement, si j'ose dire, parce qu'on a découvert, donc il y a 20 ans, en 1998, ce phénomène d'énergie noire, qui fait 70% du total. Et cette énergie noire aussi est un problème. On pense qu'elle est active, elle n'est pas une constante comme Einstein avait proposé une constante et ensuite enlevée. On pense qu'elle est dynamique et qu'elle va varier dans le temps. Pour cela, on est en train de lancer des satellites comme Euclide pour savoir comment elle varie dans le temps. En tout cas, si elle varie dans le temps, c'est une quintessence, c'est un autre élément. Donc, il y a une cinquième force là aussi. Donc, on rajoute des champs scalaires, et puis on regarde le Lagrangien, et ça donne ça. Donc c'est vraiment dérivé d'un Lagrangien, et tout est sous contrôle. Mais il faut rajouter une cinquième force.
Elle est entre quoi et quoi? La force, on la met entre quoi et quoi?
Ah ben, c'est une force qu'on rajoute.
Champ scalaire, c'est tout.
Voilà, un champ scalaire.
Enfin, c'est un potentiel, quoi.
Voilà, exactement. Un potentiel. C'est libre. C'est libre, mais...
Et selon le type de particules qu'on imagine pour la matière noire, les couplages avec la matière organique sont différents. Et ça, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des types de matière noire qui sont uniquement liés à la gravitation? Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a aucun moyen.
Exactement. Quand on arrivera surtout au neutrino, là.
Le neutrino stérile, par exemple, il n'y a aucun moyen de voir.
Voilà.
Bon, c'est c'est non falsifiable. Du coup, on peut très bien arriver à arranger les choses en se postulant ce type de particule. On n'est pas plus avancé avec ça.
Voilà. Sauf qu'il y a quand même des problèmes astrophysiques. Toutes les problèmes de matière, le CDM, les neutrinos, ont des problèmes astrophysiques. On n'arrive pas à résoudre. Sauf à supposer qu'il y a beaucoup de trous noirs au sein des galaxies qui évacuent les baryons. Parce qu'il faut quand même enlever 80% des baryons des galaxies, des galaxies massives. Comment fait-on? Il y a quand même beaucoup de problèmes du CDM, pas seulement qu'on n'a pas vu la particule, mais il y a aussi des problèmes astrophysiques qui restent. Et alors si on les résout parce qu'on a des trous noirs, etc., ok, mais pour l'instant on ne les a toujours pas résolus. Donc il n'y a pas seulement. Le premier problème, je dirais, c'est qu'on n'a pas trouvé la particule. Ouais. Et puis après, même si on suppose qu'on l'a trouvé, ça ne colle pas encore.
Aujourd'hui, le statut en 2018, c'est qu'on est perdu.
Voilà.
Parce que quand on lit des choses dans la presse qui parlent de ça, on a un peu l'impression, c'est ce qui est véhiculé, qu'il y a une sorte de consensus aujourd'hui sur le fait que la matière noire, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, l'état est beaucoup plus flou que ça.
Oui. Il y a bien des gens, il y a 30 ans, qui avaient déjà tout résolu.
Ouais.
Mais ici, en plus, je pense que le fait qu'on n'ait pas détecté ce WIMP dans le LHC, c'est
un problème.
Ouais. Un, on n'a pas la supersymétrie. Deux, la durée des cordes basiennes.
Donc, on manque de candidats, ou alors on part dans toutes les directions. Ouais. C'est-à-dire que les candidats thermiques, maintenant, à l'équilibre, sont éliminés. Donc, on suppose des trucs qui sont non à l'équilibre, des actions. Enfin, c'est de plus en plus éthéré. Parce que si c'est une action de 10-22 eV, il en faut des tonnes. Donc, ça sera des condensations de Bose, si on peut dire. Il y aura des phénomènes qui ne vont pas du tout coller avec. Pour l'instant, je n'ai pas parlé de problème, c'est que quand on fait des simulations numériques, on prédit dans le CDM qu'il y a un pic de matière noire dans toutes les galaxies. Et ce pic, on ne le voit pas, on voit le vecteur, c'est un plateau.
Oui, ça, on a
ça, on n'a pas arrivé à le résoudre, hein, parce que lorsqu'on fait des simulations avec des trous noirs pour essayer d'évacuer ce pic, il revient. Parce que les trous noirs sont actifs que 10 millions d'années, ensuite le trou noir n'est plus effectif, il n'est pas sans arrêt en train de rayonner ce trou noir.
Tu as mentionné un moment que certaines des approches nécessitaient la réintroduction d'un éther. Est-ce qui est passé assez vite? Est-ce que tu peux aller un peu plus?
C'est en quelque sorte un champ scalaire. En fait.
Oui.
Voilà. Une cinquième force, un champ scalaire. Ils appellent ça éther d'Einstein.
Oui.
Ça fait joli. C'est encore, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Je n'ai pas fait une liste très longue, mais quand on regarde l'archive tous les matins, il y a des dizaines de papiers sur une autre champ scalaire, une autre idée, etc. Donc ça bourgeonne. On n'arrive pas à suivre. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées. À la fois la quintessence pour l'énergie noire, parce que pour l'énergie noire, le problème est différent. Il faut dégraviter. Parce que l'énergie noire, en fait, c'est une force répulsive qu'on a. Donc, on a une quintessence qui dégravite. Et là, il faut surgraviter pour la matière noire. Et puis, les gens arrivent à cumuler les deux dans le même champ scalaire ou alors avec deux champs, et que la même introduction, les mêmes paramètres font à la fois matière noire et énergie noire. Mais il y a beaucoup d'imagination.
Et si les terres seraient détectables, la relativité restreinte d'Hamiltonienne, elle, est équivalente à une théorie avec les terres, si on veut, c'est ce qu'elle est devenue moins carré, mais qu'on ne peut pas détecter. On peut introduire les terres comme un.
Voilà. Parce que je pense au système solaire. Théorie, dans le système solaire, on ne modifie pas. Alors, toutes les modifications sont à des champs faibles. Le champ dans le système solaire est très fort. Hein. Il faut aller à une fois à la distance de la dernière planète pour avoir un champ faible. Et encore, on a le champ de la galaxie qui est au niveau du Soleil, est très fort. Il faudrait aller bien au-delà. Donc, il n'y a aucune expérience dans le système solaire qui permet d'avoir ces champs-là. Il n'y a que l'astrophysique. Et justement, l'astrophysique nous dit qu'il y a la matière noire. Donc, ça ne colle pas. Donc, et il y a même des modèles de quintessence qui ont le mécanisme de Einstein qui évite, qui protège le système solaire de la modification. Donc, dans le système solaire, on n'a pas de modification possible. Alors je dois dire aussi que parmi cette foultitude de modèles de gravité modifiée, les ondes gravitationnelles nous en ont éliminé quelques-unes. Parce que ça c'est pas mal, parce qu'il y en avait quelques-unes qui prévoyaient que les ondes gravitationnelles n'avaient pas la même vitesse que les
lumières.
Il y a une partie qui est éliminée, mais il en reste plein, hein, mais il y a une catégorie.
Surtout quand il y a eu la collision des étoiles à neutrons, là, voilà. Le sursaut gamma, et là c'était
voilà, sur. C'est vraiment parce qu'il est à centaines d'années-lumière.
Exactement,
ouais, à 7 secondes sur 100 années-lumière, là il n'y a pas de problème, c'est la même vitesse.
Ça, c'est
on a éliminé une bonne catégorie de.
Déjà, ça simplifie un peu l'affaire.
C'était lesquels qui prévoyaient qu'il y a une différence entre la vitesse de la gravité et la vitesse de la lumière?
Il y a certains. Alors, il y a des Horndeski d'ordre 3 ou 4. Après, l'ordre supérieur, c'est bon, c'est permis. Il y a des théories de Horndeski. Certaines sont gardées, certaines sont bonnes. Et je ne veux pas dire tous les noms qui sont là, il y en a.
Une question sur la sonde Pioneer dont on disait qu'elle déviait par rapport à sa trajectoire.
Oui, en fait, c'était un effet matériel de la sonde. Oui. C'était pas un vrai effet. Mmh. Donc, en effet, l'activité modifiée, c'était.
Ah oui, ça a été éliminé, ça.
C'était vraiment un effet de recul du gaz, enfin, je ne sais plus trop quel effet matériel. Et les sondes étaient les mêmes. C'est pour ça qu'il y avait deux sondes qui montraient l'effet. C'était la même fabrication, il y a le même défaut. Donc ça c'est matériel uniquement.
Est-ce qu'il va pouvoir y avoir beaucoup de recherches au VHC sur la supersymétrie, en particulier le jeu neutralino ou...
Je pense que oui, parce que finalement, on peut la rechercher à 10 fois plus de masse. Oui. Là, on le prévoyait à 100 GeV, peut-être que c'est pas des TeV. On est déjà en train d'explorer les TeV. On peut toujours.
Oui, mais alors.
Ça ne va pas correspondre pour la relique à 25%, on ne va pas avoir la matière noire qu'il faut. Mais bon, si la supersymétrie, on y tient, peut-être elle peut se passer à plus grande masse.
Mais ça ne
va pas pour ça.
Ça ne va pas pour ça.
D'ailleurs, ça serait même embêtant. Si on la découvre à plus haute masse.
Et ça ne veut pas dire qu'elle va exister sur Terre, enfin, dans l'univers, parce qu'elle n'est peut-être pas stable. Boson de Higgs, il est très peu stable. Hein. On va peut-être découvrir une masse qui n'est pas stable. Et... Là, on cherche une particule de très stable, de 13 milliards d'années.
Oui.
La matière noire, quoi, en théorie, forme des trous noirs massifs importants.
Non, la matière noire,
elle n'a rien à voir avec les trous noirs.
Mais pourquoi est-ce que la matière noire ne pourrait pas...
Parce que justement, elle n'est pas dissipative.
Oui, absolument.
Ça, c'est, elle ne rayonne pas. Pour rayonner, pour former un trou noir, il faut se concentrer.
Oui.
Collapser, s'effondrer par la gravité.
Oui.
C'est pas possible si on ne rayonne pas. Il faut du gaz qui rayonne.
Parce que là, le fait que tu aies montré que la densité était constante...
Voilà. La matière noire, elle forme en effet des gros halos de matière noire virialisée, et ensuite c'est pratiquement
Elle ne peut, peut pas s'effondrer sur elle-même comme le fait.
Elle est déjà effondrée, ça y est.
Elle est effondrée, elle ne peut pas aller plus loin.
Elle ne peut, pas se fragmenter, parce que pour se fragmenter, il faudrait rayonner. Elle ne rayonne pas.
Elle est discontinue ou pas?
Elle n'est pas discontinue. La matière noire. Il y en a partout, dans les filaments, par exemple, quand on fait
non, mais elle n'est pas discontinue du tout à l'échelle quantique, elle ne serait pas discontinue.
Ah, alors non, on ne sait rien du tout. C'est sans doute des particules, donc elles sont quantiques, c'est sûr, mais si c'était des neutrinos, ça aurait été des particules
discontinues. Oui, c'est ça, c'est que je pose la question, parce que est-ce qu'on a réfléchi à la continuité?
Oui, non, c'est vraiment des particules, donc si on a vraiment à l'échelle de la particule, ce sera quantique. Et donc, enfin, au point de vue densité, macroscopique, c'est continu. Hein,
et est-ce qu'on est obligé de passer par la notion de particule si aucune particule imaginable ne répond?
Justement, pour la mécanique, on me dit qu'il n'y a pas d'éther.
Voilà, pas d'éther.
Il y a peut-être un champ qui est l'éther, mais il n'y a pas de particules. Il n'y a pas d'autre chose que des particules en mécanique quantique. Il y a le modèle standard, les particules. C'est vraiment quantifié, hein.
Pas d'autre concept
de continu. Voilà, il faudrait changer la mécanique quantique, mais
oui,
Mais je pense que on s'est cassé les dents sur l'unification, la gravité, la mécanique quantique. Et c'est là-dedans que ça va peut-être se trouver. C'est pour ça que j'aimais bien l'idée de Berlin 2, bien que ce ne soit pas encore au point certainement, mais c'est le seul qui est pensé à avoir une entropie qui fait la force de gravité et qui sort de l'intégration quantique. C'est vraiment un des couplages entre la gravité et le quantique qui est très original. C'est une idée neuve en tout cas, par rapport à tout ce qui sort de l'artou de matin.
Et dans la gravité quantique à boucle, il n'y a pas des tentatives d'utiliser justement le contexte de la gravité quantique à boucle pour essayer d'aller dans cette direction? Il n'y a pas de
choses qui existent?
Parce que la gravité dans la gravité quantique à boucle, elle émerge.
C'est ce que
j'ai dit. Elle n'est pas comme telle, parce qu'il n'y a pas un espace temps.
C'est fait pour associer gravité
et quantique, mais il n'y a pas du tout de. Non, sans prévoir de matière noire, mais de prévoir à ce moment-là une modification de la gravité qui émergerait du modèle et qui serait conforme à ce qu'on veut. Donc il n'y a pas de travaux là-dessus.
Vous avez adoré.
Alors, il y a beaucoup des brain worlds, qu'on appelle des brains, etc. Alors, à chaque fois, il y a 100, 5, 10 dimensions. Il y a des univers qui se rencontrent, etc. Mais on n'a pas vu les dimensions. Les dimensions, ça fait longtemps, depuis cette dernière, qu'il y a eu Zaklan qui avait supposé qu'il y a plusieurs dimensions, mais on ne les voit pas, ces dimensions. Il n'y a aucune évidence de dimensions supplémentaires pour les quatre.
Et surtout. C'est ça un peu. Enfin, déjà, l'expérience du microscope avec la masse gravitationnelle et la masse inertienne qui sont.
Il y a principe d'équivalence.
Principe d'équivalence, il est toujours vérifié. Ah, 10-15, 10-16. Ah, les Américains vont essayer de pousser à 10-18. Mais c'est aussi. C'est solide, ça, c'est robuste. Hein.
Ça, c'est toujours dans le système solaire. Hein, donc, on ne sort pas dans la.
Oui. Pour l'instant.
Ça va être dur de sortir du système solaire. Parce qu'il faut sortir d'une distance 8000 fois plus grande.
Ça, on le fera bientôt. Oui, mais d'un autre côté, même dans le système solaire, si on arrive à ça, il faudra bien.
De toute façon, la gravité modifiée du monde prévoit le système d'équivalence faible, c'est le fort qui n'est pas vérifié, c'est-à-dire qu'il y a certains environnements, les forces ne sont pas les mêmes, mais tous les corps tombent avec la même force, hein, le principe d'équivalence peut être vérifié.
Bon,
d'autres questions? Merci beaucoup. Ouais.
Moi, j'avais beaucoup aimé quand Françoise avait fait sa leçon inaugurale au collège. Elle nous